avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous vous donnerons la parole et nous dresserons ensemble un bilan du 28e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu hier et avant-hier à Addis Abeba en Éthiopie. Un sommet marqué par cet événement historique, le retour du Maroc dans l'organisation panafricaine après 33 ans d'absence. Autre moment fort, l'élection du Tchadien Moussa Faki Mahamat à la présidence de la Commission de l'Union africaine ou encore les réformes proposées par le président rwandais pour permettre à l'organisation panafricaine de gagner en crédibilité et en performance. Sur tous ces points, nous lancerons le débat. Vos réactions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Vous continuez également à réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Et comme tous les matins, évidemment, je lirai quelques-unes de vos réactions pour alimenter le débat et la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents éditions, dans nos différents journaux. On va commencer avec des questions sur la situation en Gambie après le retour à Banjul du nouveau président Adama Barrow. Bonjour Adamou.
Bonjour Monsieur Wan, bonjour à toute l'équipe de l'Appel sur l'actualité et à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Vous nous appelez de Maradi au Niger, nous vous écoutons.
En effet, le président Yahya Jammeh a quitté le pays. Il a laissé le pouvoir à M. Adama Barrow. L'armée a fait allégeance au nouveau président. La situation est calme en Gambie et dans le reste du pays. Je ne comprends pas pourquoi la force de la CEDEAO est encore en Gambie et pour combien de temps restera-t-elle et qui est à l'origine du financement du déploiement de cette force.
Ah, ça c'est une question qui est souvent revenue au standard. Qui finance effectivement la force de la CEDEAO présente en Gambie? Olivier Roger, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique d'RFI, les forces de la CEDEAO sont entrées, rappelons-le, en Gambie le 19 janvier au soir pour forcer le président gambien à quitter le pouvoir. Elles se sont très vite arrêtées pour laisser une chance à une ultime médiation et finalement, deux jours plus tard, donc le 21 janvier, Yahya Jammeh accepte donc de quitter le pays, de quitter le pouvoir au terme d'un accord politique. Alors que font encore à l'heure actuelle les forces ouest-africaines sur le territoire gambien?
Alors elles y sont tout d'abord à la demande du président Adama Barrow afin de sécuriser le pays. C'est ce qu'il a demandé à la CEDEAO et notamment à la composante sénégalaise de la force. Ces forces ont travaillé durant les jours qui ont précédé le retour d'Adama Barrow à Banjul pour s'assurer à la fois qu'il n'y avait pas de risque dans la capitale pour le président élu, s'assurer aussi que les fidèles de Yahya Jammeh qui sont toujours rassemblés dans son village natal de Kanilai n'allaient pas tenter de résister ou de mener des actions. La semaine dernière, les forces de la CEDEAO sont allées discuter avec ces soldats qui sont à Kanilai et manifestement tout s'est passé dans le plus grand calme d'après ce qu'ont dit les responsables militaires de la force de la CEDEAO, d'après aussi ce qu'a dit notre envoyé spécial sur place, Alain Jérôme Ballot.
La CEDEAO qui a certes retrouvé quelques armes ici et là, notamment dans un domicile privé de l'ancien président Yahya Jammeh. Mais enfin, voilà, tout est calme.
Tout est calme. Les forces de la CEDEAO se sont donc assurées que les forces de sécurité et de défense de la Gambie étaient loyales au nouveau président. C'était un point très important pour Adama Barrow. Elles ont aussi sécurisé les lieux stratégiques du pays, notamment le palais présidentiel, là où elles ont découvert d'ailleurs des dépôts d'armes. Des armes ont été aussi saisies, notamment dans la zone de Kanilai et puis dans un domicile privé de Yahya Jammeh. Vous venez de le dire. Alors, combien de temps ces forces de la CEDEAO vont-elles rester en Gambie? C'est la grande question que tout le monde se pose actuellement. Adama Barrow a réclamé une présence durant les 6 prochains mois, mais le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, a fait savoir que 6 mois, c'était un peu trop à ses yeux. Alors, la question est actuellement en discussion au sein des instances de la CEDEAO, et notamment entre les chefs d'État ouest-africains. Et ce n'est pas une discussion technique, c'est d'abord un débat politique. D'après nos sources, certains présidents de la région estiment que la situation sur le terrain ne nécessite pas le déploiement durant des mois d'une mission de 7000 hommes, même si actuellement 4000 soldats sont réellement engagés sur le terrain, 90% d'ailleurs des troupes sénégalaises. Des diplomates évoquent des tiraillements entre le Sénégal, pays leader dans cette opération, et certains de ses partenaires. Des diplomates disent que, en gros, le Sénégal a fait cavalier seul durant toute cette crise, en forçant notamment un tout petit peu la présence sur le terrain. Peut-être, disent ces diplomates, pour défendre avant tout ses intérêts propres plutôt que les intérêts de la CDAO. Et bien évidemment, ça pose débat, ça pose problème, d'autant moins compréhensible à leurs yeux que ce type de mission coûte cher.
Alors justement, qui finance le déploiement de cette force?
Alors pour l'instant, ce sont les pays contributeurs de troupes qui versent les salaires à leurs soldats, qui financent leur opération, à savoir le Sénégal, le Nigeria et le Ghana, qui ont des soldats engagés sur le terrain. Il existe bien évidemment des mécanismes de financement communs au sein de la CDAO pour ce type d'opération, pour prendre en charge le poids de ces missions, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Mais ces mécanismes ne fonctionnent pas toujours très bien. Si on prend par exemple la Guinée-Bissau, ces dernières années, l'ECOMIB est déployé en Guinée-Bissau depuis, je crois, 2010. C'est une force de 550 hommes. Elle était de 700 au départ. Ce sont surtout des policiers chargés de réformer l'armée bissau-guinéenne et elle a énormément de problèmes de budget, à tel point que l'Union européenne, l'an dernier, a dû verser un peu d'argent à la CDAO pour aider à boucler les fins de mois difficiles. Ça souligne cette difficulté qu'il y a pour la CDAO de mener des missions sur le long terme. Et puis un diplomate fait remarquer que plutôt que d'avoir une force de la CDAO durant des mois en Gambie, on ferait mieux de garder l'argent pour ces programmes de restructuration, de formation des forces de défense et de sécurité gambienne qui, manifestement, d'après le président Barrow, en ont bien besoin. Mieux vaut donc payer des programmes de formation que le déploiement d'une force sur le terrain. C'est ce que disent certains diplomates. Alors tout cela alimente le débat en ce moment et ce sera tranché très rapidement au niveau de la CDAO.
Que vous inspire la présence des troupes sénégalaises, nigérianes et ghanéennes en Gambie? Vos réactions évidemment nous intéressent. On en parlera très certainement vendredi dans la Libre Antenne. Amadou, on a répondu à vos questions?
Oui, je suis satisfait, Juan. C'est très bien. Surtout quand il dit que le Sénégal a fait cavalier seul. Effectivement, j'ai toujours soutenu que le Sénégal a fait cavalier seul, mais je ne sais pas pour quelle raison.
Bon,
je suis très content.
Alors, il n'a pas totalement fait cavalier seul, le Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a quand même à chaque fois eu, bien évidemment, des décisions collectives. Mais certains diplomates soulignent quand même l'activisme du Sénégal qui était effectivement en pointe sur ce dossier, donc qui avait un poids important. Et bien évidemment, ce n'a pas plu à certains des chefs d'État de la région. On peut penser notamment au Guinéen Alpha Condé, qui a toujours privilégié une solution politique et était contre une intervention militaire en Gambie.
Oui. Et puis on rappelle que Adama Barrow a trouvé exil à Dakar, qu'il a prêté serment au Sénégal, mais à l'intérieur de l'ambassade gambienne de Dakar. Donc effectivement,
et il fut le premier à demander l'aide de la CDAO et l'intervention.
Merci
et
Olivier.
La présence plutôt.
À bientôt Olivier Roger. Merci. 9h17 à Paris. Adamou, bonne journée à Maradi au Niger. Esdras Dikoumana de la rédaction Afrique des RFI nous rejoint pour des questions sur le Burundi. Bonjour Esdras.
Bonjour.
Arc-Duc de N'Djamena nous appelle. Bonjour.
Ouais, bonjour RFI et bonjour Kindana, le monde entier.
Alors, le réseau téléphone est vraiment très mauvais avec la capitale tchadienne. On va tendre l'oreille, on vous écoute.
Le président burundais Pierre Nkurunziza avait libéré massivement les prisonniers burundais. Alors, j'aimerais savoir pourquoi cette libération massive intervient à un tel moment et aussi quelle image le Burundi aura envers l'Union européenne de par cette libération.
Oui, libération massive, on nous annonce 2500 personnes qui devraient donc prochainement recouvrer leur liberté. 2500 détenus, Esdras Dikoumana, c'est un quart de la population carcérale du Burundi, donc c'est considérable. Comment expliquer ces libérations massives et pourquoi maintenant?
En fait, comme vous le dites, c'est vraiment des libérations massives, c'est un quart de la population carcérale. Alors, ce qui l'explique, il y a d'abord trois raisons. La première, c'est une tradition, Nkurunziza a instauré une tradition depuis qu'il est président. Chaque fois à la fin de l'année, lorsqu'il présente ses vœux à la population burundaise, il libère chaque fois, et donc il fait bénéficier de sa grâce des prisonniers déjà condamnés. Et donc, il n'a pas dérogé à ses traditions cette année également.
Donc, rien d'inhabituel.
Rien d'inhabituel jusque-là. Deuxième point, c'est que les prisons burundaises sont vraiment, sont archibondées. On compte à peu près 10 050 prisonniers. On comptait jusqu'au 31 31 décembre, 1050 prisonniers pour 4000 places environ. C'est
donc il y a une surpopulation carcérale.
Surpopulation carcérale, alors qu'il y a des centaines d'autres qui attendent leur place, si on le dit comme ça, dans les cachots de la police et des services secrets burundais. Et donc il fallait en quelque sorte faire de la place. Mmh. Et troisième raison, et c'est ça en fait qui est là, ce qui est inhabituel, c'est que jusqu'ici le président Nkurunziza a toujours fait bénéficier de sa grâce des prisonniers de droit commun. Et là c'est exceptionnel, il y a des prisonniers donc politiques dans ce groupe.
Alors officiellement, il n'y a pas de prisonniers politiques au Burundi.
Officiellement, il n'y a pas de prisonniers politiques au Burundi. Le gouvernement a toujours nié l'existence de prisonniers politiques parce que tous ceux qui ont été arrêtés depuis le début de la crise sont accusés de participation à un mouvement insurrectionnel, etc. Et donc, cette fois-ci, la preuve, c'est que quand même, le gouvernement a tenu à inviter tous les diplomates lorsqu'il a libéré ces gens, et il a tenu à souligner la présence dans le groupe qui a été libéré, le premier groupe qui a été libéré de membres de partis d'opposition, il a souligné. Et donc ça a été en quelque sorte un geste qui a été fait en direction de l'Union européenne, notamment, qui est le principal bailleur des pays qui appartiennent à l'Union européenne. Il représente 70% de l'aide que reçoit chaque année le Burundi. C'est énorme. Et donc, depuis que ces pays ont pris des sanctions, ça a occasionné une grave crise économique.
Oui, on sait que les relations sont très tendues entre le pouvoir burundais et Bruxelles, la Commission européenne. Juste pour préciser les choses, Esdras, on nous annonce 2500 personnes libérés, mais pour l'instant, il n'y a eu qu'un groupe de 300 personnes, je crois.
Oui, non. Ça, c'était le premier jour. En fait, les libérations ont continué dans d'autres prisons. Je pense que maintenant, on en est déjà à 1500 prisonniers. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que c'est justement la deuxième question qui est posée. Il y a un petit problème. L'Union européenne a salué un premier geste, comme ils ont dit. Ça signifie tout et ça explique tout. Lorsqu'on parle d'un premier geste, c'est-à-dire qu'il y a encore du chemin à faire. Parce que l'Union européenne pose de nombreuses conditions pour la reprise de son aide. Notamment, il y a le fait qu'il demande à Bujumbura d'accepter un dialogue inclusif, ce qu'il a toujours refusé jusqu'ici. Bujumbura refuse de parler à son opposition en exil. Deuxième condition posée, c'est l'acceptation. Donc, il y a ensuite la question de la cessation des violations des droits de l'homme. Violations massives qui ont été dénoncées par les Nations Unies, par des organisations internationales, malgré les dénégations de Bujumbura. Mais aussi la poursuite des responsables des violations qui ont été commises depuis le début de la crise. Parce qu'il y a eu beaucoup de disparitions forcés, beaucoup d'exécutions extrajudiciaires, beaucoup de cas de torture, etc. Donc c'est vraiment une situation qui préoccupe la communauté internationale.
Et l'Union européenne demande également la réouverture d'un certain nombre de médias.
Ah, exactement, il y a à peu près, je pense aujourd'hui, il reste encore 3 radios, des radios qui ont été détruites pendant la crise, et donc la communauté, l'Union européenne demande la réouverture de ces radios, mais surtout aussi le retour des journalistes qui travaillent dans ces radios, parce que tous les journalistes indépendants burundais ont fui le pays, à peu près 80 journalistes qui ont fui le pays, mais aussi la réouverture de l'espace politique, parce qu'il est totalement fermé. Aujourd'hui, le parti au pouvoir se comporte comme un parti unique.
Donc, les relations, la coopération européenne n'est pas prête de reprendre avec le Burundi.
Ça prendra du temps. Absolument, oui.
Merci beaucoup, Esdras Dikoumana, d'être venu répondre à notre auditeur de Djamena. Il est 9h23 à Paris. Pour tout vous dire, on avait prévu un certain nombre de questions ce matin concernant Donald Trump et son décret sur l'immigration, décret qui suscite un tollé aussi bien aux États-Unis qu'à travers le monde. Mais on n'arrive pas à recontacter Philippe Golub, qui était censé répondre aux auditeurs. Il est professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. On va essayer de le rejoindre et de le contacter dans les prochaines minutes. En tout cas, les premiers actes de Donald Trump suscitent déjà des réactions au standard. On va vous donner la parole demain matin. On reviendra évidemment sur cette multitude de décrets adoptés depuis maintenant une dizaine de jours. Ça fait à peine 2 semaines que Donald Trump est à la Maison-Blanche, 2 semaines qu'il signe quasiment tous les jours des décrets. Certains font plus ou moins polémique. Il y a le décret notamment pour la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Là aussi, beaucoup de réactions. Et donc, ce décret concernant les ressortissants de 7 pays musulmans. On en parlera demain et nous vous donnerons la parole. En tout cas, l'émission se poursuit. On va s'intéresser maintenant au sommet de l'Union africaine. C'était hier et avant-hier, donc à Addis Abeba. Sommet marqué par plusieurs moments forts et incontestablement, le plus marquant est celui du retour du Maroc au sein de la grande maison panafricaine. Le Maroc qui revient donc donc au sein de cette institution panafricaine après 33 ans d'absence. Alors que retenez-vous justement de ce sommet? Qui avons-nous au standard? Mokhtar. Bonjour Mokhtar.
Bonjour Monsieur Juan.
Bienvenue sur notre antenne, vous êtes en Mauritanie, c'est bien ça?
Je suis en Mauritanie, précisément, je suis à Rossau, Mauritanie.
Et vous saluez, vous, le retour du Maroc? Vous dites que c'est important que le Maroc revienne au sein de l'Union africaine.
Je disais que c'est vraiment important que le Maroc revienne après une absence de 33 ans. C'est le Maroc est en fait d'union entre le Maghreb arabe et l'Afrique de l'Ouest. Je dirais encore que le Maroc a formé beaucoup de cadres dans toute la sous-région, en Afrique et un peu partout, et en particulier dans tous les gouvernements, on a un ou plusieurs cadres donc qui ont été formés au niveau de l'administration générale par le Maroc. Mmh. Et je dirais également que le Maroc est un pays extrêmement développé et qui peut donc avoir une coopération économique pour les pays de l'Union africaine. Je dirais également que, effectivement, que le Maroc est un pays qui a déjà œuvré dans beaucoup d'édifices, si vous voulez, religieux, un peu partout en Afrique de l'Ouest, mmh, aussi bien en Mauritanie, au Sénégal et au Mali, donc dans pratiquement tous les pays. Je dirais également que le Maroc est un poids économique très important de l'Union africaine.
Ouais. Donc, et en même temps, le retour du Maroc est globalement salué, mais il ne fait pas totalement l'unanimité. On sait que 39 des 54 pays de l'Union africaine se sont prononcés en faveur du retour du Maroc. Vous comprenez les réticences, par exemple, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Algérie, évidemment, qui soutiennent les positions du Front Polisario?
Je comprendrais que l'Algérie était un moteur au temps de l'ancien président qui était un leader dans la sous-région, même je dirais avant l'Algérie était leader, avant les indépendances. Et même, je dirais mieux également, que l'Algérie a participé d'une manière ou d'une autre pour l'obtention de l'indépendance de certains pays africains. Mmh. Mais l'Algérie a complètement viré de stratégie, et c'est ce qui a permis au Maroc d'être un pays leader dans le développement économique, social de l'Afrique.
Oui, alors Mokhtar, restez en ligne, vous êtes en Mauritanie. Eric nous appelle, lui, de Conakry, en Guinée. Bonjour Eric.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Est-ce que vous partagez l'engouement de Mokhtar sur le retour du Maroc au sein de l'Union africaine?
Ah, c'est ce que je disais en off tout à l'heure. Le retour du Maroc, personne n'a chassé le Maroc. Le Maroc est parti de lui-même, le Maroc vient. Moi, pour moi, c'est non-événement, parce que les gens se rassemblent avec l'argent des pauvres citoyens de leur pays, des contribuables africains, ils vont se rassembler, passer combien de jours pour le retour du Maroc. Il y a des problèmes plus importants. En Afrique, les gens doivent s'asseoir pour discuter, au lieu de s'asseoir pour parler du retour du Maroc.
Enfin, le Maroc est un pays qui figure géographiquement sur le continent africain. Ça fait quand même bizarre qu'un pays soit absent tant d'années. Son retour est forcément historique. Alors vous dites, oui, personne n'a chassé le Maroc. Je rappellerai quand même que le Maroc a effectivement quitté l'Union africaine pour protester contre la décision des pays africains au début des années 80 de reconnaître la République arabe sahraoui démocratique au Sahara occidental, et on sait que le Maroc considère le Sahara occidental comme étant son territoire. Donc la décision, elle est compréhensible. Après, vous êtes d'accord ou pas sur cette décision, mais la décision du Maroc, en tout cas, elle part d'un geste des chefs d'État africains au début des années 80.
Allô?
Oui, bon, vous m'entendiez pas. On va essayer de vous retrouver juste après le journal. Décidément, on a des problèmes ce matin avec les réseaux, téléphones et les liaisons. 9h30 dans un instant, le point complet sur l'actualité, et on prolonge notre débat sur le bilan du 28e sommet de l'Union africaine. À tout de suite.